Good Morning Business, le grand débat.
Le débat déjà commencé, 8h41, avec évidemment nos invités David Go, associé responsable des investissements chez Durand Capital Partners, Emmanuel Le Chypre et Laurent Neumann. Et Laure Clausier, ça me rappelle une vieille émission. Hein.
Je sais à peu près déjà qui est pour et qui est contre.
Allez, on va commencer. Alors, vous allez voir, parce que ça va commencer très fort, avec cette passe d'armes entre pas n'importe qui, le secrétaire général de l'ONU et Patrick Pouyanné, tout ça sur BFM Business. On écoute d'abord, évidemment, Antonio Guterres qui accuse les pétroliers d'être responsables de la fin du monde.
We learned last week. Nous avons eu la confirmation la semaine dernière que certains producteurs d'énergie fossile étaient parfaitement conscients dans les années 70 que leurs produits phares allaient faire brûler la planète. Mais comme l'industrie du tabac, ils ont fait peu de cas de leur propre science. Certains géants pétroliers ont colporté le grand mensonge et comme l'industrie du tabac, ses responsables doivent rendre des comptes.
Alors la réponse n'a pas tardé, celle de Patrick Pouyanné, patron de Total Energy, c'était hier soir sur notre antenne.
Nous, on savait rien du tout. On lisait les papiers. Moi, j'ai pas des scientifiques du climat chez Total Energy. Pourquoi désigner les compagnies pétrolières? Qui tire de l'argent du pétrole et du gaz aujourd'hui? Il y a plein de compagnies. Les compagnies fabriquent des voitures. Les voitures fonctionnent à l'essence, que je sache. Les avions, les compagnies aériennes. Donc, ce débat me paraît complètement un faux débat. La question maintenant, c'est sommes-nous collectivement, à l'échelle de la planète, capables de nous mobiliser?
Il y a presque une question philosophique derrière. Est-ce qu'il faut aller chercher tout les responsables de l'utilisation du pétrole, c'est-à-dire nous-mêmes, les pétroliers, les compagnies aériennes, toutes les voitures, tout le monde, en fait, tous ceux qui ont utilisé le pétrole ces 40 dernières années.
Responsable mais pas coupable. Enfin, c'est un grand classique. Et oui, on cherche des responsables, des boucs émissaires. Tiens, dans un tout autre domaine, on est le seul pays au monde, nous, où on va mettre en examen, on va même juger des ministres à cause d'une pandémie qui a été mondiale. Donc imaginez, le climat est déréglé, on va prendre 2 degrés, peut-être 3 degrés dans les années à venir à cause des énergies fossiles. Bah oui, on se tourne vers les producteurs d'énergie. Mais vous avez raison, Laure. Il faudra aller plus loin. Et puis l'industrie automobile, l'aviation, et puis même au-delà, nous tous qui avons acheter des voitures pendant
donc vous défendez Patrick Pouyanné?
Non,
vous...
je ne le défends pas. Je trouve la réponse de Patrick Pouyanné, en revanche, un peu courte. C'est la moindre des choses que l'industrie pétrolière s'interroge sur la manière dont ils ont fonctionné. Et pardon, Guterres, c'est un diplomate. Et on peut trouver ses propos peu diplomates. Mais en l'occurrence, il s'appuie sur une enquête sérieuse. C'est pas un torchon. C'est la revue Science qui fait autorité dans toute la recherche scientifique dans le monde entier.
Oui, du coup, c'était public.
Elle était publique, cette enquête d'ExxonMobil. Donc, ils n'ont rien caché, les pétroliers. Les gouvernements avaient qu'à réagir. Les consommateurs ont arrêté de prendre du pétrole.
Attendez. On aurait pu imaginer aussi que les pétroliers réagissent, que les États réagissent, que les États obligent les pétroliers, l'industrie automobile, l'aviation à réagir.
Ils n'ont pas fait.
Personne ne l'a fait.
Donc, c'est une étude qui date de 1960. 17.
Absolument.
Emmanuel Le Chypre.
Ah, moi, je trouve ça scandaleux et inquiétant, les propos du secrétaire général de l'ONU. D'abord parce que, dans les faits, vous ne pouvez absolument pas mettre sur le même plan les cigarettiers et les pétroliers. Les cigarettiers, à la limite, vous pouvez mettre l'industrie du sucre, qui a menti sciemment autant que les cigarettiers. Quand vous regardez les grandes études historiques, il y a eu effectivement la preuve que l'industrie du sucre avait truqué des études, commandé des études, etc. Donc, on peut pas comparer ce qui se passe pour le pétrole. Là, pour le pétrole, un, ces études, elles étaient publiques, donc c'était pas du tout des études secrètes. Et deux, comment vous voulez qu'un patron qui, il y a 40 ans, a 20 études sur son bureau, qui disent sans doute toutes des choses différentes. Ah oui, il y en a une qui voit juste. Mais comment vous voulez savoir, il y a 40 ans, que cette étude a vu juste? Donc, ce qu'on lui reproche, c'est de dire, ah oui, mais vous aviez une étude là à l'époque. Mais comment vous voulez savoir que cette étude, c'est la bonne? Et qu'elle vous donne les bonnes perspectives?
Emmanuel, le problème n'est pas seulement que les pétroliers savaient. Ça, c'est une information. Mais ce que dit Guterres, il va beaucoup plus loin. Il dit que l'industrie
pétrolière... C'est du wokisme économique.
Il dit que l'industrie pétrolière...
On réécrit l'histoire.
...se met le doute, c'est-à-dire contester des études que tout le monde avait, en expliquant...
Excuse-moi, tu dis c'est un diplomate.
En gros, c'était des climato-sceptiques, pour faire simple.
Tu dis c'est un diplomate et c'est le patron de l'ONU.
Bah oui.
Eh ben écoute, je trouve scandaleux si tu veux, qu'on s'agace plus ou qu'on s'indigne plus pour les petites pâquerettes qui vont souffrir du réchauffement climatique ou que
il n'y a pas que les pâquerettes qui vont souffrir.
Non, non, mais quand ce que je veux dire, c'est que quand on est secrétaire général de l'ONU, on s'indigne contre les milliers de morts qu'il y a eu à cause des guerres pétrolières en Afrique, au Moyen-Orient, tous ces coups d'État qui ont été provoqués par les compagnies pétrolières, qui ont fabriqué des révolutions, qui ont fabriqué des milliers de morts, et là-dessus, rien du tout. Et on s'indigne parce que, effectivement, potentiellement, ils n'ont pas tout dit ou ils ont été contents qu'on s'indigne pas plus que ça, par ailleurs. Je trouve que, franchement, c'est très inquiétant.
David Gouvou, qui est un responsable des investissements raisonnables, c'est quoi votre avis sur ce sujet?
Comme d'habitude, on est toujours un peu dans l'excès d'un côté et passé dans l'excès de l'autre. C'est-à-dire que dans les années 70-80, quand ces études sortaient, les États étaient encore très impliqués dans les structures d'actionnariat de toutes ces sociétés pétrolières. Et encore aujourd'hui, dans de nombreux pays, finalement, les États devraient avoir leur mot à dire. Mais les États devraient avoir leur mot à dire en montrant du doigt les méfaits du pétrole. Mais ils devraient aussi faire comprendre à la population le tempo des industriels. Et il faut laisser du temps quand il y a une évolution, une conversion vers d'autres développements. Et c'est vrai que dans le cas du pétrole, par exemple, ça fait depuis 5 ou 6 ans qu'on dit le pétrole, ça va s'arrêter en 2030. Si vous êtes un patron de société et qu'on vous dit à partir de 2030, toute votre activité ne vaut plus rien, ben vous allez arrêter d'investir.
Est-ce qu'il n'y a pas comme un risque de faire exploser le système? Parce que là, quand on entend des messages comme ça de la part du secrétaire général de l'ONU, j'imagine que quand on est investisseur et qu'on sait qu'on doit encore réinvestir pour faire du GNL, du gaz liquéfié, encore investir sur le pétrole parce qu'il y a une demande mondiale de pétrole qui va continuer. Hein. Est-ce que là, du coup, on se sent pas un peu paralysé? On se dit, je ne vais pas mettre de l'argent, même si on en a besoin, et même si on sait que si on ne met pas d'argent, le pétrole va coûter 300-400 dollars le baril.
On a assez d'éléments aujourd'hui pour se dire il faut une réponse plus nuancée et plus hybride, en fait. On l'a vu avec la situation en Ukraine, on voit que ça peut être quand même très compliqué. Comme vous le mentionnez, la demande de pays comme l'Inde, la Chine vont continuer, et même l'ensemble des pays émergents. L'Afrique derrière va continuer de croître. Donc, arriver à travailler à extraire du pétrole plus propre, essayer de travailler sur des efficacités, mais ne pas annoncer idéologiquement, c'est la fin de tout.
Ce qui me frappe quand même, c'est que l'étude en question date de 1977. Il s'est donc écoulé 46 ans. C'est très long, 46 ans, pour imaginer comment sortir du pétrole. On aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et la vérité, c'est que tout le monde a été.
Oui, mais là, je rejoins un peu Emmanuel, c'est qu'on refait l'histoire, quoi. Complètement.
Oui, mais on a le droit. On a le droit de refaire l'histoire.
Non, mais Patrick Pouyanné, par contre, il a dit on a compris. Désormais, on investit dans le pétrole, mais pour avoir des productions qui restent stables. On n'augmente pas la production de pétrole et on veut être le premier investisseur dans les renouvelables.
Enfin, je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on n'a pas assez de pétrole pendant les 20 ans qui viennent, il n'y aura pas de transition écologique. Ouais. Hein, il faut rappeler que la transition écologique, ça n'existe pas. Ça ne s'est jamais fait à l'histoire de l'humanité. On a toujours ajouté une énergie aux anciennes énergies. Et on consomme plus de charbon qu'on en consommait au temps de la révolution industrielle, etc. Donc, ce mythe, un petit peu, de la substitution, c'est-à-dire qu'on va remplacer les énergies par d'autres, peut-être à terme, mais ça prendra énormément de temps. Et donc, le risque, c'est que la temporalité n'est pas du tout la même. Effectivement, quand vous êtes investisseur, on vous dit, attendez, le pétrole, dans 10 ans, c'est terminé, ça ne vaudra plus rien. Ouais. Comment voulez-vous que, si vous voulez, autant le recul de la production, on comprend bien qu'il doit être progressif, mais la progressivité en matière d'investissement, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas vous dire j'investis un petit peu, et puis. Mais non, et c'est là où il y a un vrai problème de
non, mais cher Emmanuel, ça fait 46 ans, donc on nous explique qu'il faut prendre son temps et que la transition prend du temps. Or, moi, je prétends qu'un demi-siècle, c'est très très long pour permettre aux chercheurs, aux industriels, pas seulement dans le pétrole, dans l'industrie automobile, dans l'aviation, pour imaginer la façon dont ça se produira. On ne parle pas de 4 ou 5 ans. On est en train de nous expliquer que ça fait 50 ans qu'on le sait. Un demi-siècle, on a été au frein à main pour ne pas faire cette transition. C'est ça le sujet.
Le coût de production de ces énergies alternatives, ça a pris du temps aussi. Ouais. Les technologies n'étaient pas au point. C'est très très long. Et puis surtout, d'ailleurs, il y a un enjeu géopolitique essentiel. Parce que finalement, sur ces nouvelles énergies, on est de plus en plus dépendant des équipements qui viennent de pays émergents. Et donc, on ne veut pas non plus être complètement dépendant. Donc, c'est vrai que ça paraît très long. En même temps, il y a tellement d'enjeux essentiels sur le long terme que finalement, c'est bien qu'il y ait ce débat, il faut avancer, mais c'est vrai qu'il ne faut pas brusquer les uns et les autres.
Mais ce serait une faute de ne pointer que les industriels, je le redis. Les États ont leur part de responsabilité. Je vais prendre un exemple. Depuis qu'on nous a dit qu'il pouvait y avoir peut-être des coupures d'électricité, des pénuries là pendant cet hiver, vous avez vu ? Tout à coup, on a envoyé des messages, on a dit soyez sobres,
faites attention.
Et ça fonctionne.
Ça fonctionne vraiment
bien. Donc ça veut dire que depuis 30 ans, on n'a pas envoyé les bons messages aux gens.
Ouais. Parce qu'on attend toujours d'être face au problème devant sa porte.
Donc c'est bien ce que je dis. Si Total est responsable, alors M. Guterres aurait dû dire aussi qu'un certain nombre d'États ont laissé faire.
De toute façon, il n'y a qu'une seule vérité, c'est le prix. C'est-à-dire, vous voyez bien que les comportements changent uniquement au moment où le prix change. Donc comme disent les économistes, il n'y a que deux façons de changer les comportements des gens. C'est la dictature ou les prix. Voilà. Et là, effectivement, quand on voit que les prix sont trop élevés, comme par hasard, ça incite au comportement vertueux. Mais vous voyez bien, et puis après, il y a ce fameux effet rebond qui fait que quand c'est moins cher, vous consommez plus, etc. Et donc, on n'en sort pas. Et le fait que tout le monde ait eu de l'énergie pas chère pendant des décennies, tout le monde était content de cette situation. C'est tout, c'est simple.
Allez, sujet passionnant. On en vient à un autre, évidemment. C'est la première journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Manifestement, les syndicats on cherche à frapper fort là, par la mobilisation, on ne sait pas, on verra aujourd'hui. En revanche, action coup de poing, on a vu la baisse de la consommation d'électricité, déjà deux fois l'équivalent de Paris, par des actions de blocage des systèmes de production. Et puis à l'instant, Total Energy qui annonce donc que les expéditions sont interrompues sur l'ensemble de ces sites. Donc là, une manière à créer un petit mouvement de panique chez les consommateurs, tout le monde va aller faire le plein, il va y avoir des... Est-ce que c'est les bonnes méthodes, Laurent, tout ça?
Alors, c'est très important parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a une bataille de l'opinion. Or, la bataille de l'opinion, jusqu'à présent, elle s'est jouée sur la pédagogie de la réforme. Et là, pour le coup, c'est totalement raté. Plus le gouvernement fait la pédagogie de la réforme, plus les Français sont opposés.
Ça, Laurent, c'est
absolument. Non, mais depuis que les ministres sortent sur les plateaux de télé pour expliquer ce qu'il y a dans la réforme,
c'est de pire en pire.
C'est de pire en pire. La contestation augmente. Mais à l'inverse, du côté des syndicats, en fonction des méthodes qu'ils vont utiliser, alors que les Français majoritairement soutiennent les grèves, j'ai même vu qu'ils soutenaient la possibilité de blocage. Majoritairement. Ça, c'est quand même.
Là, on va vers du blocage. Hein.
Voilà. Mais en revanche, lorsque ces blocages vont durer, et en fonction des méthodes qui vont être utilisées, les syndicats risquent aussi de jouer leur propre
page. En 95, c'est la stratégie du blocage qui avait été choisie. Et finalement, bizarrement, plus le mouvement passait, plus l'adhésion de l'opinion, ça a augmenté pendant de longs.
95, années. C'est le contre-exemple, c'est vrai.
Emmanuel.
Moi, je trouve que sur. C'est un sujet sur lequel on retourne finalement vers les années 70, parce que ça fait quand même un moment que les syndicats avaient renoncé à utiliser ce genre d'instrument, la coupure par exemple de courant, c'était quelque chose qui était plus utilisé. Mais c'est de toute façon la preuve que les journées de grève comme ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, pourrait y avoir deux fois plus de gens dans la rue aujourd'hui, c'est que ça a grosso modo finalement
le nombre de gens ne change rien.
Non, ça a un impact politique et économique qui est très faible, et qu'on voit bien que c'est le blocage du pays qui finit par paradoxalement débloquer politiquement.
Et en vérité, le blocage des mobilités. Si vous additionnez les raffineries, donc plus d'essence dans les stations, plus SNCF, plus RATP.
Mais ce qui est nouveau, Laurent, c'est qu'on est dans ce nouveau monde post-Covid, qui est le monde du télétravail, qui concerne quand même presque 4 emplois sur 10, qui est le monde de toutes les nouvelles petites mobilités, etc. Et ça va être intéressant de voir comment ça se passe.
David Go, c'est Retour vers le futur. Vous venez de l'Asie, donc Pong, Singapour. Vous revenez en France et vous retrouvez la France des années 90 et les 70.
70, carrément.
Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'efforts de débats et d'expertises qui sont mises en place pour essayer de résoudre cette question des retraites sur le plan national. Et donc, on travaille énormément tous les mécanismes de part et d'autre. Bon, il semble que les manifestations dans la rue fassent partie, en fait, de ce dialogue et de cette participation. Mais c'est vrai qu'on a là un débat de long terme, un débat de fond. On a un passif de long terme, et ça serait quand même intéressant de mettre en face de ce passif un actif de long terme.
Travailler plus, par exemple.
Et de se dire, ça c'est au niveau national, mais c'est aussi de regarder d'où vont venir en fait les créations de richesses, la croissance supérieure sur les 20 années à venir.
Et alors, c'est bon,
et est-ce qu'ils ne sont pas allés chercher dans d'autres pays et qui financeraient nos retraites avec, par exemple, un système de fonds de pension.
Donc, comme les Japonais d'aller investir dans les pays.
Depuis 50 ans, qui font ça de façon systématique. Et c'est une chance, parce que les retraites, c'est vraiment un sujet de long terme. Donc, on pourrait se positionner sur ces pays dans lesquels on croit et avec des outils financiers. Mais c'est là que ça demanderait de réintégrer
dans le débat. David,
bon, le mot de la fin, juste, Emmanuel.
Juste, n'oublions pas que la répartition, ça ne crée aucune richesse supplémentaire.
C'est du transfert.
Ouais. C'est du transfert. Alors que la capitalisation crée quand même de la richesse.
Merci à tous les trois. On termine sur deux belles images. La première, c'est celui de la défense, le quartier de la défense, qui n'est pas complètement à l'arrêt. L'autorité de régulation de la défense me dit que 3 à 4 fois moins de flux piétons que d'habitude, mais c'est quand même pas... Voilà, les gens s'organisent à peu près. Puis autre belle image, c'est celle de nos nouvelles émissions qu'on va lancer, iconique, la verticale luxe de BFM Business, tous les vendredis à 21h, une émission et aussi, bien évidemment, un site internet, une application, un podcast avec Audrey Tcherkov. Et c'est Audrey Maubert qui présentera donc vendredi le numéro 1 de cette émission consacrée au luxe. Comment on dépense son argent? On en a beaucoup. C'est la volonté de cette émission, complètement à contre-programmation de ce mouvement de mobilisation.
Non, c'est
sociale.
Plutôt comment on dépenserait l'argent qu'on n'a pas.
Par exemple, aussi, ça donne des idées.
Il faut inviter Emmanuel Le Chip qui, lui, est iconique.